Bonjour, bonjour et bienvenue dans Radio Creuse Citron. C'est le 4e numéro de ce magazine qui suit les publications de Creuse Citron. Creuse Citron qui sort au mois de mai 2026, son numéro 88, le journal de la Creuse Libertaire. Nous sommes avec Cédric. Salut Cédric.
Bonjour.
Et nous sommes avec Dave qui ouvre ses lunettes, sa boîte à lunettes.
Ouais, bonjour avec les lunettes.
Bonjour avec les lunettes. Vous êtes donc tous les deux pour représenter votre rédaction. On fait donc comme tous les trimestres un petit tour de Creuse Citron, un tour approfondi même. On a une heure devant nous. Je ne sais pas si on va pouvoir la consommer en entier. La dernière fois nous étions 5 ou 4. Hein, On était plus nombreux. Et donc déjà on a pris l'habitude de regarder la couverture et c'est une couverture intéressante aujourd'hui de ce trimestre. On voit donc c'est un dessin, c'est arrivé je crois qu'il y ait des photos ou en tout cas des reproductions de photos. Là c'est un dessin où on voit un cochon qui fume un cigare, c'est ça, et qui porte un costume et qui semble nous regarder droit dans les yeux et qui surmonte un groupe de moutons. Voilà, moutons noirs et moutons blancs. Cédric, c'est toi qui as l'habitude de commenter la couverture. Et là, c'est Dave. Ouais.
Allez, je vais commenter la couverture. Il y a un petit panneau ni porc ni facho. Et donc, en fait, c'est un homme cochon. Effectivement, c'est un cochon à cravate, donc un homme cochon. Donc, c'est les hommes, en fait, qui ravagent la planète à l'heure actuelle, qui font des sous, référence à Orwell. Et c'est par rapport à une lutte actuelle au Vassivière. Il y a une usine à cochons qui commençait à travailler.
Un élevage et projet.
Qui est en projet. Donc là, il y a eu de l'opposition, autant au niveau régional qu'une association localement qui s'est montée. Il y a eu une journée la semaine dernière de soutien, avec donc une petite marche, une petite marche quand même, 5-10 km, 5 km aller, 5-6, et un pique-nique donc, au bord du lac qui expliquait où on était la lutte en cours. Donc là, effectivement, il y a une résistance quand même qui est importante. Le chantier est arrêté.
On va y revenir, puisqu'il y a un long article qui est consacré à cette problématique, si je ne me trompe pas assez rapidement dans le numéro, donc on y reviendra. Il y a pas mal d'enjeux de pollution, je ne sais pas à quel point vous entrez dans les détails, mais on a pu en entendre parler sur cette antenne, et je pense qu'on va continuer à en entendre parler pendant un certain temps, parce que les inquiétudes sont très grandes sur le territoire concerné par cet élevage de porc. On tourne peut-être la page, sauf si quelqu'un veut ajouter quelque chose sur ce dessin. Donc on tourne la page et là on arrive sur l'édito qui est signé par Kidam. Kidam qui n'est pas là aujourd'hui. Le titre c'est « Les ogres de barbarie ». Cet édito revient sur deux éléments. D'abord l'adoption à l'ONU d'un texte sur l'esclavage qui considère que c'est le plus grave crime contre l'humanité qui a eu lieu, ou au moins un des plus graves. Et donc Kidam rappelle, parle des personnes des pays qui se sont opposés à ce texte, les États-Unis, Israël et Argentine. Et il mentionne également les abstentionnistes dont fait partie la France. Et Kidam, dans cet éditorial, fait un parallèle avec la loi Yadan. En France, du nom de cette députée des Français de l'étranger qui a proposé une loi où, pour résumer, et je sais que c'est peut-être sujet à débat, mais en tout cas pour résumer, l'idée était peut-être d'assimiler l'antisionisme à de l'antisémitisme et donc d'empêcher toute critique pratiquement des politiques et peut-être même de l'existence de l'État d'Israël. Cédric, je te vois me regarder.
Tu as bien résumé l'édito. Après, c'est assez frappant de voir, de mettre en parallèle ces deux événements-là, quoi. La réticence à reconnaître le commerce des esclaves comme étant
un des plus graves crimes.
Voilà. Et à côté de ça, une proposition de loi qui est, qui peut vite, très facilement, déboucher sur des formes de censure encore plus dures que celles qu'on a connues ces dernières années face aux manifestations contre l'opération militaire israélienne à Gaza, quoi. On ne peut pas séparer cette loi de ce qu'on a vu du soutien continu de la France et de l'Occident à la politique israélienne.
Et de la négation des actions israéliennes et du caractère génocidaire de ces actions.
C'est ça. Macron et sa clique ont eu des positions hallucinantes à répétition en accusant systématiquement d'antisémitisme les manifestations qui s'opposaient à l'intervention israélienne. Bon, ils ont progressivement reculé à force qu'on entendait et qu'il était de plus en plus admis qu'à minima, les crimes de guerre qui étaient commis étaient épouvantables, qu'Israël ne respectait absolument rien d'aucune réglementation internationale. Ils ont multiplié. Maintenant, c'est le Liban. Maintenant, on découvre qu'en Cisjordanie, les Palestiniens sont très maltraités. Enfin, c'est une découverte, ça fait 20 ans. Enfin, et ça, c'est terrifiant depuis des décennies, etc., etc. Donc, ils sont tout le temps en train de freiner des cas de fer pour reconnaître l'évidence. Et dans la politique réelle de l'État français, il n'y a absolument rien qui est fait pour essayer de faire pression à aucun niveau, au niveau économique, au niveau diplomatique, sur l'État d'Israël. Enfin, c'est-à-dire il y a quelques vagues condamnations de principes extrêmement timides, alors qu'il y aurait des tas de choses qui seraient possibles à faire, qui auraient peut-être une portée symbolique.
Peut-être à l'échelle européenne, encore plus qu'à l'échelle française.
Même à l'échelle française, en termes de marché, en termes de... Enfin, et donc, évidemment, qu'une loi comme ça... le pire étant que, sous couvert de dénoncer l'antisémitisme, c'est exactement le genre de politique qui favorise la confusion, en fait.
On continue, donc ça c'est l'édito qui est signé Kidam. On va plus loin avec donc En Bref, qui est la rubrique qui ouvre le journal après l'édito. Première brève, c'est un retour sur le procès des inculpés du 15 juin. Cédric, Dave, est-ce que vous souhaitez dire un mot sur ça ? Peut-être rappeler le contexte, tout le monde n'est pas au courant de ce qui s'est passé ?
Oui, alors à Limoges, il y a eu lieu le jugement il y a quelques semaines. Donc on a eu le temps on a dû rajouter un petit peu une extrémiste cette brève. Donc les deux inculpés qui ont déjà eu 5 ans très très difficiles, traités comme des terroristes. Une enquête vraiment très, très poussée.
Ils sont soupçonnés de sabotage, c'est
ouais,
ça ?
Oui, voilà, il y a eu des camions, des antennes et des camions, et des 10. Donc, ils ont vraiment, vraiment, vraiment vécu des années difficiles. Ils ont utilisé une stratégie face à leur procès, de critique de la technologie, qui a été assez, assez soutenue, hein, donc au niveau du parking à Limoges, devant le tribunal.
Il y a eu un comité.
Il y a eu des différents réseaux qui se sont articulés pour faire des débats, discuter, une cantine. Voilà, donc ils ont eu tout ce soutien à côté du tribunal, donc ça a aussi permis des personnes d'assister au procès.
Toi, tu étais sur place ?
Je suis passé, oui, je suis passé une journée.
Ok.
Et finalement, le verdict a été rendu, ce qui n'était pas complètement définitif au moment de la publication, de bracelets électroniques, 1 an et 2 ans.
Voilà. Donc ils ont été condamnés pour les faits de sabotage.
Ils ont été condamnés légèrement par rapport à ce qui était demandé, ouais. Mais en même temps...
Mais sans prison ferme, donc avec du sursis,
oui,
c'est
avec
ça.
L'idée, effectivement, que quand même la prise en considération du collectif des collectifs qui ont soutenu et de la critique aussi de la technologie, donc il y a quelque part leur action a quand même atténué leur peine.
On continue et avec...
Dire que dans le précédent numéro, donc il y avait eu on en avait parlé pas mal, hein, ouais. C'est pour ça que l'on a été plus bref, on avait repassé le communiqué du comité de soutien qui vraiment, oui, généralise, comme ils l'ont fait au procès, à vraiment une critique des technologies. Ils en ont fait vraiment un procès tribune, quoi.
On continue donc avec une marche blanche à Saint-Éloi qui est liée, pareil, est en lien avec le numéro précédent ou avec ce numéro, non ? Non,
oui, c'est le numéro précédent. Il y a un article sur la déforestation.
Oui, un article très fouillé que tu avais signé, Dave, sur la déforestation. Oui. Et donc là, tu reviens donc sur une marche blanche qui est liée à ces enjeux de déforestation.
Voilà, localement, dans la commune de Saint-Éloi, il y a eu un exploitant forestier pas très respectueux qui est venu avec ses gros sabots et qui a fait beaucoup de coups franches. Donc c'est une des communes les plus coupées, hein, Saint-Éloi, 160 hectares sur 5 années, de coupes franches, hein, donc on parle que de
coupes rases,
des coupes entières. Donc on voit sur la carte, notre forêt est devenue vraiment fortement mitée et découpée. Et là, sur la forêt de Plaine-Faille-Faucoutance, Après une coupe de 20 hectares qui commençait à atteindre une zone humide, bah, un collectif d'habitants s'est mis en résistance courageusement et suite à refus de dialogue de l'exploitant forestier, a décidé de créer cet événement, cette marche blanche, qui a été un succès. 150 personnes sont venues faire une marche donc dans cette forêt en sursis, une marche de 3 km. En passant par les sites de coupe rase, par les sites de zones humides, en expliquant un petit peu l'enjeu, tout le milieu écologique, donc les chauves-souris, les libellules, les crapauds, les batraciens, les oiseaux, les autres animaux, et les arbres, bien sûr, des arbres magnifiques, des chemins communaux bordés de pierres, des arbres plus que centenaires, qui finiraient, d'après l'exploitant forestier, en pâte à papier. C'est vraiment dommage. Donc c'était l'intention de faire connaître ce morceau de forêt. Le collectif ne s'arrête pas à cette action, bien sûr, parce que malheureusement, il risque de revenir. On va essayer donc de développer les chemins communaux et essayer de rallier les différents hameaux de la commune. Voilà, histoire de vraiment se réapproprier un petit peu la forêt, parce que la forêt est un commun, ce n'est pas qu'une propriété privée. Elle a ses deux facettes.
Oui, les paysages aussi, c'est quelque chose de très très important dans le cadre de vie.
Et les paysages sont importants pour les gens qui vivent localement, ouais, sûr, et puis ouais. Toutes les autres espèces, on n'est pas que la seule sûr, espèce sur la planète. Il y a plein d'espèces qui s'organisent entre elles, qui vivent sur place et qui purifient notre air, notre eau. Et là, malheureusement, si les machines arrivent dans la zone humide, ben, c'est toute une partie de l'eau creusoise qui n'est pas retenue en Creuse. On a un terrain assez sédimenteux. Voilà, donc c'est des lots perdus pour nous et les autres espèces.
On continue avec les brèves, une que tu signes, Dave, sur un compteur électrique, un compteur type Linky pour mesurer la consommation d'eau qui va être déployée, qui est en train d'être déployée.
Plutôt que d'en parler, c'est un petit coup de gueule hein, d'un petit paragraphe, je te propose de la lire.
Vas-y.
Alors le compteur électrique Linky avait embêté beaucoup de gens. On se souvient de ce passage en force, des compteurs mis en place dès que l'habitant était sorti. Un nouvel objet technologique dit connecté est en cours de déploiement, le compteur d'eau. Les services de mairie vantent cette maîtrise de la consommation, l'optimisation de la gestion, passant sous silence l'énorme quantité d'eau qui fuit les canalisations ou, une autre qualité, l'évitement du présentiel. À les écouter, le consommateur serait gagnant. Au passage, il gagne davantage de dépendance envers des prestataires inconnus. Il gagne à être une fois par jour délationné et baigné dans un flot magnétique de la connexion, mais c'est sans doute la planète qui paye en extractivisme, productivisme, consommation déchets, le plus cher la facture de cette nouvelle merdouille connectée. Quelle serait la prochaine consommation qui sera mesurée et transmise par un automate? L'air que l'on respire?
On continue avec une brève sur MNA Creuse. Donc MNA, c'est le collectif qui vient en aide aux mineurs non accompagnés.
On continue à suivre modestement tout ça, quoi. Bon, donc voilà, ça renvoie à l'activité de cette association.
Il y a eu un événement organisé par plusieurs collectifs à Feltin. J'ai vu Jessica qui prenait des photos. Je ne sais pas si ça sera publié dans un futur.
Il n'y a pas toujours de la place pour tout publier. Mais voilà, on voulait au moins...
Parle dans le micro.
On voulait au moins l'évoquer, au moins dans une brève, quoi. Faute de faire un vrai article. Quoi.
Donc là, l'information, c'est que MNA Creuse crée une association pour porter son activité.
Tout à fait. Voilà.
Minute Nasillon, donc là c'est un retour sur l'affaire Quentin Derenque. Est-ce que vous souhaitez dire un mot ou on peut continuer
J'ai un ami lecteur qui a trouvé que le titre était un peu faire de l'ironie alors qu'il y a un type qui est mort, que c'était un peu discutable. Bon, bref, on avait discuté sur ce titre, c'est pas ça qui est très important. Mais ce qui est important, et c'était important de le rappeler, même au moins dans une brève, c'est l'incroyable délire médiatico-politique qu'il y a eu autour de cette histoire. C'est quand même pas rien d'avoir quasiment une unanimité médiatique sur cette question, une minute de silence à l'Assemblée nationale. Pour quelqu'un, et donc encore, moi j'en parle parfois suite à ça, les mêmes amis qui avaient lu. Et en fait, ils sont pas du tout particulièrement affiliés à ces news, hein, mais ils n'avaient pas tellement en tête la réalité qu'il y a derrière le matraquage médiatique. Quoi. Et donc la réalité, c'est que ce jeune homme qui a été tué est un néo-nazi avéré, c'est pas du tout un militant nationaliste, comme on l'a entendu, ni même un militant de l'Action française, c'est un néo-nazi revendiqué, avec salut hitlérien devant les caméras de sa chaîne, ou éloge de Hitler dans des...
Entraînement avec les armes.
Etc, etc. Et qu'il a été tué dans le cadre d'un... comment ? Lui et 25 de ses petits amis ont attaqué un groupe d'antifa qui voulait faire le service d'ordre pour protéger une conférence animée par un, comment, une députée LFI, je crois.
Ouais.
Et donc, ils ont été attaqués. C'était un guet-apens de 25 néo-nazis qui ont essayé de se faire de l'antifa, sauf que les autres se sont défendus et qu'ils avaient beau être moins nombreux, hein, les antifa. Eh ben, ils ont quand même réussi à donner un coup à ce jeune homme qui a fini par lui être fatal. Ils l'ont pas tabassé au sol. Hein. Le gars s'est relevé, il est parti et il est tombé. Il a fait un arrêt, je sais pas quoi, un arrêt cardiaque 500 mètres plus loin. Donc, c'est dans un cadre de légitime défense. Des gens se font attaquer par des néo-nazis et se défendent. Et ce gars finit avec une minute à l'Assemblée nationale. Ça dit quand même quelque chose sur l'ambiance... assez inquiétante de l'évolution de la vie médiatique
et politique. En parlant d'ambiance, la brève suivante parle de l'attitude de la préfecture de Creuse, et évidemment c'est un lien hein, qui s'est illustré récemment en tentant de renvoyer de France des jeunes d'anciens mineurs qui venaient d'arriver à la majorité, qui avaient suivi des études en France, et donc la préfecture immédiatement a souhaité les renvoyer du territoire français, ce qui est complètement... c'est peut-être que c'est discutable pour certains, mais concrètement, oui, c'est absurde quoi,
c'est dégueulasse,
d'avoir des personnes qui sont formées dans des lycées ici, qui s'intègrent ici et pour lesquelles beaucoup de personnes se battent pour leur intégration, et de les renvoyer juste parce qu'elles arrivent à l'âge de 18 ans, c'est absurde. Et heureusement, on a encore une justice administrative qui applique la loi et donc qui a pour le moment bloqué ces obligations de quitter le territoire français, c'est ça ?
Oui, et ben, le problème, c'est voilà, avec les brèves, on pourrait en faire des pages toutes les semaines, tellement on entend des trucs. C'est sûr qu'on est dans une sale ambiance, on ne peut pas dire le contraire.
Acte manqué, les travaux ont commencé le jour de la grande journée de mobilisation à l'espace André Lejeune. Donc là, il s'agit de Biocil. Donc l'usine Biocil a commencé ses travaux le jour où plusieurs collectifs avaient appelé à une grande journée de mobilisation à Guéret.
Voilà. Ouais, pareil, on va en parler peut-être au prochain article. Mais bon, il fallait en parler dans la brève parce qu'on n'avait pas mis ça sous presse. L'article suivant. Effectivement, le jour du grand concert avec les hurlements de Léo et Calune. Ils ont commencé par couper le grand arbre creux, donc, qui était la maison des chauves-souris. Voilà, il y a quand même peut-être un signe d'une provocation. Le jour du concert, donc le matin même, ça n'est resté qu'en rumeur, en fait, le jour du concert. Donc il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu d'organisation. Il n'y a aucun groupe qui allait voir de quoi il s'agissait. Et donc, après coup, c'est un peu amer, en fait, en constat. Même si la journée a été un succès, de l'autre côté, au niveau de André Lejeune, quelques centaines de mètres plus loin, le chantier, le terrassement de l'usine Biocil a commencé en détruisant une zone humide.
Donc l'usine Biocil, rappelons-le, c'est une usine qui va fabriquer des pellets hein, pour les bois, et à qui on reproche notamment de les fabriquer pas seulement avec des résineux, mais également avec des feuillus et parfois avec des très vieux arbres, des arbres remarquables, comme peut-être cette maison de chauve-souris. Dernière brève, biocide entre parenthèses. Donc là, c'est la même chose ? Non,
c'est une brève article, un peu plus gros, donc c'est une brève d'une page.
Que tu as signé, Dave, qui parle de...
Voilà, ça parlait des différentes manifestations anti-biocide qui a eu lieu dans les 3 mois. Donc il y a eu cette journée de concert, mais c'est pas tout. Il y a eu une journée aussi d'information sur Guéret, la salle de la mairie. Il y a une revue de presse à la salle de la mairie et d'autres choses. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ?
Alors, tu n'étais pas.
Donc, je fais un petit peu la synthèse de tout ça.
De tout ce qui s'est passé sur ce terrain de lutte. Voilà, et ça continue, parce que pour les personnes qui suivent comme nous, même si c'est un peu loin, on voit les communiqués.
D'ailleurs, je peux peut-être profiter, si l'émission passe d'ici là, lundi prochain, matin. C'est ça. Donc, rendez-vous 10h à Sainte-Fiel, histoire d'informer les habitants de la réalité, parce qu'il y a eu un beau travail de greenwashing avec des brochures de la part de Biocil.
Voilà, lundi 25. Quoi. Ouais. Et c'est vrai que ça s'accélère et que donc c'est le moment plus que jamais d'essayer de faire pression après, sur les autorités.
L'usine sera construite si on attend trop. Donc là, c'est le risque à ce niveau-là. Après, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes. Il y a une personne, donc j'en parle dans l'article, dans la conférence de presse, qui fait une analyse financière de qu'est-ce que c'est que Biocil, en fait, quelle est sa structure financière. Et ça fait assez froid dans le dos. On n'a pas pu le mettre dans ce numéro-là. Peut-être une synthèse dans le prochain numéro. En résumé, c'est un des plus grands fonds d'investissement qui est derrière M. Cockburn. Je ne sais pas si on peut nommer, mais on va le nommer parce que de toute façon...
Ce sont des informations publiques de toute façon.
Tout à fait. On peut rappeler que M. Cockburn a honteusement menti par rapport à la provenance des arbres, ce que tu disais tout à l'heure.
Ouais. Il y a eu un engagement de Biocil sur la provenance des arbres.
Il y a une vidéo sur Canopé qui est intéressante où tu vois M. Cockburn promettre que non, qu'il va vérifier la provenance. Et deux semaines plus tard, il s'est fait prendre la main dans le sac et il a dit « Ah bah je ne peux pas vérifier tous les camions qui arrivent ». Normalement, c'est fait à 80% de résineux le pellet pour que ça brûle bien. Donc là, en fait, ils vont du pellet peu cher, mais c'est du pellet de feuillus qui brûle très très mal avec des arbres centenaires, sans doute des abris pour chauves-souris. Voilà, donc c'est une destruction pour pas grand chose.
Ouais, et bien c'en est fini pour les brèves. On peut marquer une très courte pause, une respiration, et on se retrouve dans quelques instants. On continue la découverte du numéro 88 de Creuse Citron, le journal de la Creuse Libertaire. Nous sommes toujours avec Cédric et Dave de la rédaction, du collectif qui gère cette publication. On a revu les brèves, on a pris pas mal de temps parce que ce qui est intéressant quand même dans ce journal, c'est que vous revenez sur et vous suivez les grands faits d'actualité de notre territoire qui sont pas anodins, hein, tous les enjeux d'écologie évidemment, tous les enjeux liés à l'immigration, etc. Et on commence maintenant à regarder un peu les autres contenus. Ça commence par une interview, c'est assez rare dans Creuse Citron, si je me trompe pas, en tout cas dans mon expérience de Creuse Citron, avec les Hurlements de Léo. Hurlements de Léo, donc un groupe qui était présent pour la journée de mobilisation du 10 février contre l'usine Biocil. C'est ça, hein, c'est tellement... Oui, c'est ça.
Ouais,
surtout pour les arbres et la forêt. Et donc, tu en as profité, Dave, pour faire un entretien avec eux.
Voilà, on a pris un petit moment. On était un petit groupe à cet événement de Creuse Citron. Et Erwan Naour nous a fait le plaisir de nous faire une petite interview.
Erwan
de Hurlements de Léo. C'est un ancien, c'est un groupe qui a plus de 20 ans, qui est revenu avec un nouvel album. Et donc, ils ont pris un petit temps pour nous répondre par rapport à pourquoi ils sont venus défendre la forêt. Donc, ils nous expliquaient qu'ils étaient prêts. Pareil, je synthétise un petit peu l'interview. Hein, qu'effectivement, de temps en temps, quand ils estiment que la cause est juste, ils parlent d'anti-conneries. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui marchent à l'envers à l'heure actuelle. Donc, ils sont prêts à donner un peu de même. Et j'ai trouvé intéressant aussi sa réponse. Où est-ce qu'on pouvait mettre la limite sur la bêtise du monde? Et Erwan nous a répondu son application sur l'habitat léger, donc pour aider à bâtir un habitat léger, donc qui a beaucoup de vertus.
Simple, écolo. Qui est combattu par de très nombreuses communes.
Évidemment, parce qu'il y a aussi beaucoup de peurs. Mais bon, c'est des peurs plutôt un peu d'argent, on va dire, hein, parce qu'effectivement, à partir du moment où t'es pas tenu par un domicile, t'es plus libre, et quand t'es plus libre, t'as plus de temps, si t'as plus de temps, tu peux plus réfléchir. Donc,
tu payes moins d'impôts locaux, peut-être.
Il y a ça aussi, tu vas moins entretenir la machine, donc la machine, elle aime bien comme avoir des petits retours, comme ça. Il parlait donc de ce sujet, hein, qui va sans doute se développer davantage, parce qu'on voit la situation économique en Europe. On voit aussi les inversions, la terrible réalité en fait de notre civilisation, aussi au niveau des constructions, ce qui veut dire extractivisme, ce qui veut dire aussi des matériaux, des carrières qui sont extrêmement aussi polluantes et qui contribuent à détruire les zones humides. Le problème de changement climatique aussi. Donc l'habitat léger, il va être de plus en plus au cœur du sujet. Il va être aussi aider à préserver des lieux naturels. Donc c'était un plaisir de recueillir ce témoignage. On remercie Erwan.
Article suivant, pollution, gros port et extrême droite. Donc, une critique non démagogique des nuisances. Donc là, vous parlez notamment, mais pas que, du projet de porcherie industrielle à Royères-de-Vassivière, autour de Royères. Quelqu'un... Alors, ouais. C'est Loup Solitaire qui signe.
Alors, en fait, ce n'est pas un article, c'était un courrier. Parce que ça, okay. C'est bien, ça arrive quand même... Ah, c'est pas chaque numéro, mais bien un numéro sur deux, ces temps-ci, où il y a un lecteur qu'on connaît pas, okay. Qui nous envoie un texte qui a la bonne dimension pour être publié, c'est-à-dire pas trop grand, quoi.
Mais pas trop petit non plus. Hein,
bah, ça pourrait être plus petit, il y a des brèves, ouais. Ça peut arriver peut-être... Donc, là, c'est 10 000 signes pour deux pages, donc incidemment, s'il y a des gens qui ont envie, qui lisent Creux Citron et qui ont l'impression que ce qu'ils ont à dire pourrait faire sens avec ce qu'on dit par ailleurs... ou pas, enfin c'est à voir. Bon, ils peuvent envoyer en tout cas très volontiers, et après nous on publie ou pas suivant qu'on est d'accord évidemment. Et donc là on trouvait que c'était vraiment intéressant ce qu'il disait. On a déjà dit ça un peu, mais il le disait donc.
Je lis les premières phrases si tu veux, comme ça ça donne une idée de la teneur. Pourtant, il y a quelque chose qui me chiffonne dans la façon dont est traité le problème. Donc le problème en question, c'est l'implantation d'une porcherie dans la région de Royères. Une fâcheuse tendance très répandue aujourd'hui à compartimenter les problèmes et à ne se sentir responsable de rien du tout. Nous sommes passés d'une société où il était normal de subvenir à ses besoins à une société de consommation où il apparaît absolument évident de ne pas subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, la majeure partie d'entre nous ne produit pas sa nourriture, mais attend simplement que quelqu'un d'autre le fasse. Dans ce contexte, nous avons bon espoir de trouver quelqu'un qui le fera de manière respectueuse de l'environnement, mais en même temps, nous souhaitons souvent payer le moins cher possible, etc. etc. Donc, on sent dès les premières lignes que c'est une réflexion soutenue, quoi. Que oui, ça part pas sur des lieux communs et que c'est quelqu'un qui doute de la situation et qui apporte une analyse.
C'est à la fois évidemment une critique du projet de porcherie, mais c'est aussi une critique de l'opposition. C'est-à-dire c'est une réflexion sur les limites de l'opposition.
Une critique sans démagogie, comme il le dit.
Une phrase pour finir. Il n'est pas exclu d'utter contre l'installation de cette usine de porc, mais si cela ne s'accompagne pas de remise en question individuelle et collective, cela n'aura aucun sens. Voilà.
Bien vu. On continue sur un autre dossier intéressant là, qui se passe dans l'Allier. Un projet de mine de lithium dans l'Allier porté par Imerys, si je lis bien, et qui a des implications notamment écologiques avec l'utilisation abusive d'eau. Là, c'est un article signé Nicolas Cheviron et Célia Isoir. Vous l'avez repris peut-être dans une autre publication, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Donc, un mot dessus ou peut-être...
Oui, on peut peut-être parler de l'avenue de notre président à Montluçon pour soutenir ce projet.
Disons qu'avec Biosil, c'est l'un des projets qui menace le plus, disons, d'échelle importante, qui a une portée nationale, en fait, en Creuse. Et le projet de mine des Chassières, c'est l'autre projet qui est peut-être encore plus gros.
Dans l'Allier.
Dans l'Allier, mais qui est vraiment, c'est vraiment des voisins, hein, ils sont vraiment tout près. Biosil, il y a déjà des précédents, alors que là, et Chassières, il y a un peu le côté, si cette usine-là se fait, ben, le projet de relancer des usines, cette mine, de relancer des mines, notamment de lithium, ailleurs en France, ben, il y aura un précédent, quoi. Donc c'est un peu la première grosse tentative, il y en a déjà eu d'autres, mais si celle-là, elle passe, eh ben, c'est mauvais signe, pas seulement pour l'Allier et pour nous, mais bien au-delà, quoi.
Voilà. On continue le survol ou la lecture ou la découverte du numéro 88, mai 2026, juillet 2026, de Creux Citron, qui est dans sa 21e année, avec un article que tu signes, Dave...
À 180 degrés.
À 180 degrés. Donc tu peux nous expliquer peut-être le concept et de quoi tu parles ?
Ouais, donc c'est une critique de notre mode de vie, hein, quelque part.
180 degrés, là, c'est pas des Celsius. Hein,
c'est non, c'est pas la température, ouais. À 180 degrés, donc voilà, je l'explique à la deuxième paragraphe. Arrivé à ce point, force est de constater notre impuissance à se sortir de cette crise existentielle dans un monde apparemment insensé. Mais peut-être pouvons-nous nous inspirer des valeurs capitalistes ? Je m'explique. Vu qu'elle nous envoie droit dans le mur de la destruction systématique, quelle piste s'offre à nous si nous en prenons le contre-pied ? Donc voilà, je me dis, quelque part, on a une source d'inspiration qui est magnifique. On se rend compte qu'on a des valeurs bases de notre civilisation moderne qui vont droit dans le mur. Donc je prends quelques principes de base de cette civilisation. Le premier principe, c'est la hiérarchie. Donc c'est vraiment une valeur de domination totale. On pense un peu à la colonisation, d'arriver avec nos belles valeurs, c'est le plus fort qui gagne. Et qu'est-ce que c'est que l'inverse de la hiérarchie, en y réfléchissant bien? C'est la réciprocité. C'est l'idée de ne pas faire aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Nous sommes tous unis quelque part, peut-être plus au niveau de notre cœur. Et donc on doit en fait, par la distorsion de notre culture, créer une double négation pour entendre les choses. En fait, la chose de base, elle est très simple, c'est qu'on est tous reliés comme un collier de perles, on ne voit pas le fil, il y a un invisible qui nous relie tous les uns les autres. Alors forcément, ce fil invisible, on va encore moins le voir avec les valeurs qu'a développé la société du globalisme démesuré.
Ok.
Voilà, ça c'était donc, sur les hiérarchies. Et puis donc, je dirige après gentiment l'article vers une vision un peu d'avenir. Pour l'instant, qu'est-ce qu'ils nous proposent les dirigeants? Ils nous proposent de contrôler le désastre, l'apocalypse annoncée. Est-ce qu'il ne serait pas temps de reprendre un petit peu au sérieux l'utopie? Est-ce qu'il ne serait pas temps d'avoir des intentions positives? Et déjà, la simple intention de vouloir vivre en paix, pas seulement les humains entre eux, mais toutes les espèces, tous les niveaux de vie, parce qu'un arbre, c'est une vie aussi. Moi, je le rappelle souvent aux bûcherons, parce que finalement, ça finit par être une marchandise. Les hommes finissent par être une marchandise. Donc j'ai cette petite phrase. Si on enlevait le R de révolution et qu'on le donnait à l'existence, qu'est-ce que ça donne? Ça donne résistance avec une intention d'évolution.
Merci Dave. Donc ça, c'est ton article à lire dans ce numéro qui s'appelle « À 180 degrés ». C'est suivi d'une petite bande dessinée sur 2 pages, je crois, qui parle du printemps. C'est le printemps. Pourquoi derrière la réalité de ce paysage ensoleillé ne vois-je pas le règne du mensonge, la menace, la cruauté ? Donc c'est... Ouais.
C'est Fred qui signe des BD très régulièrement pour Crocitron et parfois des couvertures depuis... quelques années, qui n'est pas creusois, mais qui vient très souvent ici. Et voilà, il est un peu déprimé, Fred, ces temps-ci, ces dernières BD. Il y a souvent beaucoup d'humour et d'ironie. Il faut prendre le temps de les regarder, parce qu'il y a plein de petits détails, et ça dit beaucoup de choses, avec un mélange d'humour et de gravité. Et là, il nous a carrément fait une BD en vers, donc, puisque c'est, je ne sais pas le nombre de pieds, mais enfin, en tout cas, c'est rimé. Et il y a un petit happy end à la fin. Voilà, le tableau n'est pas très très joyeux, mais...
Et c'est très bien dessiné, ça a l'air très chouette à lire.
C'est faussement léger, c'est faussement enfantin, voilà.
On continue avec un autre article de fond qui est signé Élan Noir et qui revient sur l'uranium, la pieuvre nucléaire et l'uranium, l'extraction d'uranium en Limousin.
Voilà, ouais. Il y avait plus d'une vingtaine de mines d'uranium en Limousin dans les années 50... qui ont produit quelques années et puis qui ont été arrêtés quand on a été chercher, l'uranium en Afrique pour le malheur des Africains à proximité des mines et au Niger notamment. Et donc voilà, donc il revient sur l'histoire de ces mines, de leur gestion calamiteuse. Il y a déjà longtemps, il y a eu des oppositions, hein, il revient sur ça, sur les oppositions qu'il y a eu à ces mines, les oppositions à un projet d'enfouissement de déchets nucléaires en Limousin comme c'est maintenant le cas à Bure. Donc il revient sur toute cette histoire. Et sur la pollution, il y a eu des oppositions parce qu'il y a eu des gens qui ont été malades, bien malades, des riverains, etc., etc. Il revient sur tout ça. Et c'est intéressant de reparler un peu du nucléaire, puisque désormais, il y a de plus en plus de gens qui se disent écologistes et qui trouvent que finalement, ce serait peut-être pas si mal, les centrales... Donc à force d'essayer de nous faire avaler cette couleuvre depuis des décennies, eh ben, ça finit par prendre. Et comme ça s'est éloigné, que Fukushima est un peu loin, eh ben, on entend de plus en plus de gens qui disent que peut-être, en attendant, on ne sait quoi, le nucléaire, ce serait finalement moins mal que le charbon ou le pétrole. Quoi, voilà.
Il y a un dernier article qui est très intéressant, qui est le plus long du journal, qui fait 3 pages, et qui parle de critiques contre le mouvement des soulèvements de la Terre, donc des doutes qui sont rappelés, des éléments qui interrogent sur son organisation, sur la manière dont il fonctionne. Et donc Dave, tu souhaites dire un mot dessus, et puis Cédric, c'est toi qui as écrit l'article, donc tu vas nous expliquer de quoi il s'agit.
Oui, bah déjà pour dire que la Soulèvement de la Terre, on est très content de leur action. C'est vraiment un groupement qui a fait quelque chose, qui fait quelque chose, qui se remue pour la Terre, pour la défendre, et qu'à l'heure actuelle, il y en a bien besoin. Donc c'est pas un article non plus qui veut aller contre les Soulèvements de la Terre, mais qui veut peut-être les aider à améliorer leur organisation, de d'informations qui ne redescendraient pas assez. Donc on reste un petit peu dans les classiques de ce qu'on voit au niveau. Voilà, la première fois que j'ai entendu parler d'une critique des Soulèvements de la Terre, c'était au procès de Limoges. Il y a un groupe qui est venu de Grenoble sur micro-ST électronique, qui est aussi un gros combat au niveau national contre la pollution de l'eau et contre la collusion civile-militaire. Donc des micro-composants qui sont des grenoblois en fait, qui sont arrivés, qui bénéficient d'études très, très complètes, très articulées, donc qui arrivent très fort sur le marché du travail avec une bonne intention, genre qui vont aller manger bio, venir bosser en vélo, qui se rendent compte en fait qu'ils créent des armes, qu'ils créent des puces, qui vont aller faire fonctionner des missiles, donc qui remettent en cause leur travail. Et donc par rapport à cette lutte contre micro-est électronique, ils ont demandé l'aide des Soulèvements de la Terre, ça s'est pas très très bien passé. Donc l'association était prête d'exploser, d'imploser. Il y a eu une sensation d'être un petit peu mangée, phagocytée par les Soulèvements de la Terre.
Donc c'est essentiellement la recension de deux brochures.
Donc, des brochures, c'est-à-dire
des brochures critiques. Une qui s'appelle « Au moins une fois faire des vagues » par les soulagés de l'Isère. Et en fait, qui sont vraisemblablement les personnes que tu as entendues à Limoges, David. Ouais. Puisque la brochure, ce que tu dis là, elle détaille cette expérience-là.
Okay.
Et après, elles élargissent beaucoup. Enfin, ils élargissent beaucoup le propos au fonctionnement général du Soulèvement de la Terre, à leur perspective, et à ce que eux ils entendent et ils souhaitent comme forme d'organisation des luttes qui soient valables, quoi, qui soient à la fois honnêtes, morales, et qui apprennent à. Ben, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est en expérimentant la liberté qu'on apprend la liberté, en fait, et la politique dans le bon sens du mot, c'est-à-dire une vraie politique qui s'appuie sur le projet de liberté individuelle et collective, de démocratie, en fait, dans le sens autant. Bref, pour moi, c'est l'idéal libertaire, quoi.
Et donc, l'autre brochure, c'est quoi ?
Et l'autre brochure, c'est une brochure d'un groupe qui s'appelle Antitech Résistance, comment la gauche désarme l'écologie. Alors je suis beaucoup moins d'accord avec l'ensemble des positions de ATR, hein, Antitech Résistance. Il y a des choses très intéressantes dans ce qu'ils disent, mais par ailleurs, il y a des choses qui ne me vont pas du tout. Et donc là, j'ai pris dans la brochure ce qui m'intéressait pour la critique des soulèvements. Voilà. En l'occurrence, si la première brochure parlait beaucoup du mode de fonctionnement, c'est-à-dire en gros... C'est une organisation très hiérarchique
et opaque
et donc manipulatrice et qui se fait passer pour un mouvement horizontal alors qu'elle ne l'est pas du tout. Voilà, en gros. Et Antitech Résistance, qui sont eux-mêmes un groupe assez hiérarchique, mais qui, à la différence des Soulèvements de la Terre, le revendiquent. Ils ne prétendent pas être un groupe horizontal. Donc ils ont moins l'honnêteté de dire franchement ce qu'ils veulent faire, mais qui sont beaucoup plus petits, beaucoup moins importants. Donc c'est pas le lieu de développer ça, mais eux, ils se sont souciés notamment dans leur brochure, et c'est ça qui m'intéressait, du programme des Soulèvements de la Terre. C'est-à-dire que à la fois, il y a un problème de fond, c'est que c'est un groupe hiérarchique profondément, et un groupe hiérarchique qui décide d'arrêter d'être hiérarchique, il n'y a pas beaucoup d'expérience de ça quand même. Et en plus, sur le fond, dans ce qu'ils défendent, c'est très très faiblard en fait au niveau de la critique. Leur écologisme, si on peut dire, c'est un peu extrémiste, peut-être extrême de dire que c'est à géométrie variable, mais disons qu'il y a, si on considère qu'on ne peut pas faire de critique écologique sérieuse sans remettre en cause le système industriel, que l'écologie radicale, sérieusement, c'est ça, c'est une remise en cause du système industriel. Qui prend la peine de réfléchir à ce que c'est le système industriel, quoi, et à pourquoi est-ce qu'il faut le remettre en cause, et que les Soulèvements de la Terre, ils sont extrêmement ambigus et contradictoires par rapport à ça. Il y a certains endroits où ils ont l'air de dire ça, et il y a d'autres endroits où ils n'ont pas du tout l'air de dire ça.
Donc, voilà. pour essayer de comprendre, tu t'es basé sur deux publications qui critiquaient de manière très différente et avec plus ou moins de raisons, selon tes yeux, le mouvement des Soulèvements de la Terre.
En gros, sur le fond et sur la forme, on pourrait dire.
Et donc, ton article développe ou revient sur ces critiques. Est-ce que tu as essayé de trouver d'autres sources? Est-ce que tu as pu confronter confronté avec d'autres informations ou contacté des gens au soulèvement de la terre?
Non, ça j'ai pas fait ça. Après, il y a en plus de ces deux brochures, il y a, je cite aussi deux autres textes plus brièvement écrits par un monsieur qui s'appelle Tom Jo, qui est un anti-industriel du nord de la France plutôt, et qui lui revient sur deux points précis de collaboration des soulèvements de la terre. Il faudra lire l'article, je ne vais pas entrer dans tous les détails, et qui confirme, enfin, qui donne d'autres du grain à moudre pour tout ça. Et puis moi, je dois dire, si j'ai voulu faire cet article, ce n'est pas que j'ai tout à coup découvert qu'il y avait un problème des soulèvements de la terre, c'est que j'étais à la fois intéressé par ce mouvement, parce que c'était, comme je dis au début, ils se sont rendus incontournables dans le paysage politique français, et notamment pour les gens qui se reconnaissent dans l'écologie radicale, mot très vague, mais disons. Et donc, je regardais un peu ce qu'ils faisaient, je lisais un peu ce qu'ils écrivaient, et il y avait des tas de choses qui me mettaient mal à l'aise ou qui me gênaient.
Comme ?
Eh bien, ça, je soupçonnais le caractère hiérarchique et manipulateur. J'avais déjà eu d'autres textes plus courts. Bon, là, les brochures que je cite donnent elles-mêmes des références bibliographiques que je n'ai pas fait et on peut retrouver, je pense, relativement facilement. D'autres textes ou d'autres témoignages. J'avais eu des témoignages oraux aussi de gens qui décrivaient tel ou tel aspect. Et puis j'avais été lire, pas l'intégralité, mais en tout cas des larges morceaux de leur bouquin, Première secousse. Donc voilà, tout ça, à mon sens, c'est un faisceau de présomptions assez lourd, quoi. Et puis il y a un aspect aussi qui n'est pas négligeable, c'est que les soulèvements de la Terre viennent de quelque part et que pour le coup, je suis aussi, c'est-à-dire, comme je le dis dans l'article, il y a une revue qui s'appelle Tikkun, qui après a donné un groupe qui a publié L'Appel, et qui est un groupe qui sont appelés les appellistes, pour parler vite, une tendance, on va dire. Et puis après, le Comité Invisible, l'affaire de Tarnac, tout ça, puis une fraction importante du mouvement Notre-Dame-des-Landes, le Comité pour le maintien de l'occupation, etc., etc. Donc tous ces gens où leurs héritiers ont donné les soulèvements de la terre. Donc, il y avait déjà matière dans les ancêtres, on va dire, des soulèvements de la terre. Il y a les critiques que je fais là, on peut déjà les faire pour leur prédécesseurs, quoi. Voilà.
Eh bien, c'est à lire donc dans le numéro 88
de. Je termine, Citron, oui. Le titre, c'est Halte à la vampirisation des luttes.
Dans le micro, vas-y.
Le titre, c'est Halte à la vampirisation des luttes par les soulèvements de la terre. C'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'était le texte d'une banderole qu'il y avait à la manif de Grenoble l'année dernière, qui a été très, très. Enfin, ce dont parlait David, le collectif a failli exploser, etc., etc. Et à cette manif, il y a une partie des gens qui étaient là, qui pointaient du doigt la tentative de mainmise des soulèvements de la terre sur le mouvement. Quoi.
Voilà, il y a le dessin, la signature.
Il n'y a pas de photo, mais il y a un dessin de la banderole en question qu'on a trouvé dans une revue anti-extractiviste. Voilà.
Et donc, après ça, on va probablement conclure. Je ne sais pas si vous voulez revenir sur les derniers éléments. Là, on est vraiment à la fin.
Oui, peut-être parler des livres.
Il y a Qui terrorise qui ? C'est un livre, c'est ça ? Oui, c'est Chronique du procès des inculpés du 8 décembre.
Voilà, donc c'est un livre qui est sorti récemment et qui rend compte, c'est une série de témoignages d'un procès dont ont été victimes, un autre procès, des gens qui ont été accusés d'avoir des projets terroristes, etc., sur des bases absolument hallucinantes. En gros, ils connaissaient quelqu'un qui revenait du Rojava, qui avait lutté contre, qui avait été aux côtés des Kurdes
contre
l'État islamique. Et ce jeune homme est revenu, la police lui est tombée dessus, l'a accusé de vouloir monter des trucs terroristes, et des gens se sont retrouvés dans des gardes à vue interminables, des pratiques policières dans tout ce qu'elles peuvent avoir de plaisant, pour simplement parce qu'ils étaient sur son téléphone, par exemple, des choses comme ça. Mmh. Et donc, ça, c'est un tableau de ce qui peut menacer, je ne vais pas dire n'importe qui, mais des tas de gens divers.
Il y a tout un historique de
la démocratie française.
Dans ce domaine. Un autre livre, Autodestruction de Kilian Jorg.
Très intéressant, qui parle de la civilisation des voitures.
Pourquoi la voiture détruit le monde et comment arrêter ça ?
Ouais, donc là, c'est intéressant, ça met en cause la culture occidentale que l'on a. Donc après 50 ans, plus de 50 ans de voiture, comme ça nous a déjà déformés dans nos désirs, dans nos manières de vivre, une manière de vivre la nature aussi. Il parle de ces aberrations, de créer des parcs nationaux et des très très grands parkings pour pouvoir y accéder. Et donc aussi cette facette de voir aussi un parc national comme une vitrine aussi quelque part qui permet la destruction du reste. Intéressant. Donc ouais. Il y a une vision très critique sur beaucoup de choses qui nous paraissent ça évidentes. Et en lisant ce livre qui commence avec une vingtaine d'illustrations très intéressantes, sur notre civilisation de la voiture, qui part bien sûr des États-Unis, qui part déjà d'une démesure incroyable, qui montre déjà sur 50 ans comment ça s'est inséminé en nous et comment on est déjà devenu des machines.
Comment la police interroge et comment s'en défendre, un autre livre.
Ouais, c'est un magnifique bouquin qui parle vraiment d'une manière pragmato-pratique. Qu'est-ce que c'est qu'un interrogatoire de police? Et effectivement, on a vu se durcir les périodes de garde à vue en France et dans le monde. Et ils en arrivent à des techniques presque de torture physique comme psychologique. Et effectivement, j'ai lu ce livre très très synthétique, très très intéressant, qui démontre par A plus B en fait tout ce qu'une enquête de police peut avoir d'illégal à sa source. Donc ils ont accès très facilement à nos ordinateurs, nos prothèses téléphone. Et comment en fait, en synthèse un petit peu globale de cette lecture, comment l'interrogatoire est une manière en fait de faire, de montrer ces informations recueillies d'une manière quasi illégale pour pouvoir l'ajouter au procès et devant un tribunal. Donc voilà, le conseil, c'est taisez-vous. Vous êtes pris en garde à vue, vous êtes dans votre légitimité de défendre un morceau de planète. Taisez-vous,
ok. Bon, ben voilà, c'est simple. Agrivoltaïsme, donc un autre livre sur ce sujet.
Une brochure écrite par quelqu'un qui a longtemps, proche de, qui était à StopMine, qui est toujours à StopMine 23, un collectif dont on est très proche, et qui a été au Trou de Combraille, qui a animé ce journal pendant un bon moment. Et voilà, et qui parle donc aussi une autre menace pour les paysages.
Dans le micro, s'il te plaît. Ouais.
Une autre menace non négligeable pour les paysages, notamment creusois, et pas seulement pour les paysages.
Les panneaux solaires.
Voilà.
Oui, c'est pas une menace, c'est déjà là. La psychiatrie emprisonnée-tu ? Donc là, c'est un texte.
Une lectrice aussi, en fait.
Une lectrice. C'est un texte, un récit, quoi, on va dire.
C'est la deuxième prison de France, c'est l'hôpital psychiatrique. C'est une manière aussi de faire taire les gens, de les mettre au placard d'une manière très efficace, avec beaucoup de cachets.
Et là, après, c'est un poème, c'est ça ? Vous parlez d'Annie Boone.
Oui, d'Annie Boone, qui est décédée le 28 janvier 2026. Donc qui était connu beaucoup par le collectif StopMine, et avec une lettre intéressante qu'elle a, très très humoristique, qu'elle a envoyée au service d'impôts et qui fait un petit peu la lumière sur une histoire qui lui est toute personnelle, avec beaucoup d'humour. Donc,
vous publiez une lettre qu'elle a écrite au service des impôts, un peu comme en référence à Pierre Desproges qui écrivait une lettre aux impôts et qui commençait par mon trésor.
C'est pas mal. C'est notre style, c'est pas mal aussi.
Et enfin, un texte d'Annibo qui s'appelle Errance aussi, pour finir. Et dans la dernière page, il y a toutes les informations pratiques. Donc, celles pour les personnes qui souhaitent s'abonner, avec des frais d'envoi qui ont augmenté. Donc, c'est 3,14€ par numéro, plus le prix libre pour chaque
livre. Donc, on encourage les prendre en dépôt, parce que nous, ça nous coûte de plus en plus d'argent à envoyer les magazines. Et beaucoup d'organisations.
La liste des dépôts à Aubusson, Bourganeuf, Boussac, Chambon, Champagnat, Dun-le-Palestel, Évaux-les-Bains, Moutier, Feltin, Guéret, Jarnage, La Souterraine, La Vavelle-les-Mines, Le Donzeil, Limoges, Nouziers, Pontarion, Pont-au-Mur, Royère-de-Vassivière, Sainte-Fère et Saint-Gousseau. Donc tout un travail de diffusion.
Et effectivement, le coût de fabrication du numéro a beaucoup augmenté. Et on l'a peu relayé pendant longtemps.
Mais on en a parlé déjà au dernier numéro.
Ah oui, ben là on le redit parce qu'on a refait les comptes. Là, j'ai été relever la boîte aux lettres,
le relevé bancaire peut-être.
Non, la tirelire du dépôt de Royère de Vassivière, et j'ai vu qu'il était toujours marqué prix de fabrication du numéro 50 centimes. Alors je me suis dit, nom de Dieu, ça fait sans doute 15 ans que ce truc, le papier n'avait pas été mis, donc là en fait on est à 1,30€.
Ouais.
Donc j'espère que les gens ne lisaient pas ce petit papier.
En 15 ans, c'est
ça chiffre. Ça chiffre. Effectivement, oui.
Ouais. Eh bien, donc 1,30€, ça donne une idée du prix si on veut contribuer.
C'est un prix indicatif, on a le droit de mettre plus.
C'est le prix coûtant, voilà.
On a le droit de mettre moins
c'est
aussi.
C'est prix, on gagne rien, mais on aimerait.
Moi, je l'ai pris à étiquette à Aubusson et j'ai mis 2€. Eh bien, merci, je crois. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez annoncer, dont vous souhaitez parler, Donc là, on se reverra en août certainement, peut-être en septembre en fonction des présences et des absences de chacune et chacun. Est-ce qu'il y avait autre chose ? Vous me regardez là ? Vous vous regardez ? Non, tout va bien ? Eh bien, merci.
On a enregistré une bonne longueur d'émission.
Ouais, merci pour ce travail et pour donner l'occasion aux lectrices, aux lecteurs qui ont la bonne idée d'acheter, de réfléchir et de s'interroger sur des grands enjeux de notre territoire. Évidemment qu'on peut trouver des informations ailleurs, mais c'est vrai que chez vous, on va systématiquement trouver au moins un article, une brève, quelque chose sur les 4, 5, 6 très grandes problématiques de notre territoire qui, d'ailleurs, sont souvent des problématiques nationales ou en tout cas des avatars de grandes problématiques nationales. Donc, merci de votre visite, merci d'avoir pris le temps.
Merci et
je crois
toi.
Que Cédric, bah, c'est bon, hein, on a respecté le contrat, tu peux y aller, tu peux aller à ton rendez-vous. À bientôt. Salut.